bienvenue dans cette nouvelle émission de notre série consacrée à l'histoire des Vosges et l'histoire d'Épinal, et en compagnie de notre invité Jacques Grasser. Bonjour.
Bonjour à tous.
Je rappelle que vous êtes agrégé d'histoire et avec vous, nous présentons cette histoire de notre territoire autour de la Première Guerre mondiale et autour de ces forts qui ont été bâtis justement suite à la guerre de 1870 et qui sont allés très vite, effectivement, dans leur construction. Je vous propose, on a parlé il y a une émission de cela, des ravitaillements des hommes, mais ce qui va changer aussi pendant cette période entre 1870 et 1914, c'est qu'il va y avoir beaucoup plus d'hommes qui vont arriver sur ce territoire spinalien. La ville va être beaucoup plus habitée par ces soldats et donc il faut aussi organiser tout le ravitaillement, pas seulement pour les hommes mais aussi pour les bêtes. Donc tout cela va évoluer aussi avec le temps.
Alors le problème c'est que, pas un problème, c'est une question plutôt, c'est un ravitaillement effectivement en nourriture de ces hommes, sachant que les moyens de communication ne sont quand même pas gigantesques à l'époque. Hein. Et n'oublions pas que la route n'est quasiment pas utilisée pour un ravitaillement comme celui-là. Hein. Et les camions, à cette époque-là, ça balbutie, hein, les camions berliers, etc. C'est le début. Hein. Ça va arriver pendant la guerre de 14. Hein. Pensons au ravitaillement de Verdun, la Voie sacrée, etc. Mais pas en 1914. Et donc, c'est le chemin de fer essentiellement. Et donc, on va avoir un ravitaillement qui va être organisé sur place. C'est-à-dire qu'on ne va pas chercher la nourriture à l'autre bout de la France. Hein. On prend, alors...
Localement.
On a toute une série de plans de mobilisation qui comprennent tout cet aspect-là. L'aspect de ravitaillement, non seulement en munitions, mais en vivres, etc. Hein. Et donc, quand on va débuter la guerre de 14, on est depuis 1872, 17e plan de mobilisation. Donc, de tout cela, pas seulement les effectifs, mais munitions, nourriture, etc. 17 plans, c'est le plan 17. Les Allemands, c'est pareil, hein, de leur côté. Et donc, on va avoir, dès le temps de paix, un recensement de toutes les ressources qui sont à proximité de la place forte. Donc, on va recenser, par exemple, tous les animaux, tout le bétail hein, qui est là. Et donc, on va construire, par exemple, des frigorifiques militaires. Alors, c'est là, à Épinal, où se trouve la galerie Saint-Nicolas et maintenant le parking à étage, hein, à la Chipote. C'est là où étaient, jusqu'il y a 40 ans, hein, c'est pas si vieux que ça, qui étaient devenus les frigorifiques civils, hein, mais les frigorifiques militaires. Alors, au début, le bâtiment, c'était un parc à fourrage pour les casernes Comtade, qui étaient à côté, puisque les casernes Comtade, c'était essentiellement, depuis le XVIIIe siècle, des casernes de cavalerie. Donc, il y avait des chevaux, donc il fallait les ravitailler. Puis, c'était transformé en frigorifique militaire en vue de la Grande Guerre. Alors, pourquoi frigorifique? Parce que, au moment de la mobilisation, on va aller chercher tout ce bétail qui va être réquisitionné chez les paysans et on va en sacrifier une grande partie pour les stocker dans ces frigorifiques militaires. Sachant, c'est pas un adage, mais enfin, qu'une vache morte mange moins qu'une vache vivante. Hein, voilà. Alors, on va garder les vaches vivantes parce que, on ravitaille en lait aussi la troupe. Donc, on a des stations de traite hein, sur la place. Moi, je donnerai quelques chiffres tout à l'heure parce que j'ai beaucoup étudié ce problème-là à Verdun, à la place de Verdun, qui est exactement le même problème qu'à Épinal. Les rations sont les mêmes, etc. Pas les mêmes problèmes. Et si on parle d'animaux, on a effectivement tous les animaux, tous les chevaux. Alors, c'est pas seulement régiment de cavalerie, mais tous les officiers d'infanterie sont à cheval. Donc, tous les régiments d'artillerie, par exemple, on a le 62e régiment d'artillerie mobile, ce sont des 75 qui sont tirés par des chevaux, par des attelages de chevaux, avec les caissons de munitions qui sont tirés par des chevaux. En 1914, à Épinal, en temps de paix, il y a plus de 3000 chevaux. D'où des installations énormes, on appelle le parc à fourrage, cette fois, qui était situé rue de Lorraine à Épinal, donc en montant vers la Vierge. Hein. Il existe encore la maison du commandant du parc à fourrage, qui est là. Maintenant, c'est la rue Paul Testard, c'est un lotissement, mais depuis pas longtemps, hein, c'est il y a une vingtaine d'années, hein, c'est tout. Hein. Donc, parc à fourrage énorme pour ses chevaux. Hein. Puis, alors, ça répond, encore une fois, alors, la farine, c'est pareil, etc. Le vin, alors, évidemment, le vin, on ne produit pas tellement de vin dans les Vosges, donc il faut le chercher ailleurs. Hein. Mais tout ça est organisé par temps de paix. Hein. Alors, je peux donner quand même quelques chiffres. C'est les chiffres de Verdun, mais c'est les mêmes pour Épinal. Hein. C'est exactement les mêmes. Par exemple, en 1914, il est prévu pour 70 000 hommes au moment de la mobilisation. C'est à peu près le même chiffre à Épinal. Donc, c'est 70 000 hommes pendant 3 mois. On prévoit, par exemple, plus de 112 000 quintaux de blé et de farine, plus de 7 000 quintaux de riz et de légumes secs, presque 8 000 hectolitres de vin, 10 000 quintaux de conserve de viande, 28 000 quintaux de viande fraîche, j'arrondis. Voilà. Alors, les quantités prévues pour les hommes vont croître entre 1879 et 1914.
Vous voulez dire qu'on mange plus ?
Alors, on mange plus et on mange différemment. Il était prévu, par exemple, en 1979, 166 kilos de viande pour 6 mois par homme. En 1914, c'est 396 kilos. 396 kilos, c'est-à-dire que on a presque doublé le poids en viande fraîche par homme. Par exemple, en 1891, on prévoyait 216 kilos de farine par homme. En 1914, c'est 300 kilos. Alors, c'est essentiellement le pain. C'est le pain. Mais alors, peut-être un peu plus pittoresque, alors les rations, c'est 200 grammes pour un homme en 1888, 400 grammes à partir de 1891, donc pour un jour de viande fraîche, un jour de salaison et un jour de conserve de viande. Alors, au niveau de la boisson, ça aussi c'est un peu pittoresque, en 1888, on prévoyait 1 demi-litre de bière par homme et par jour, ou 1/4 de vin. Et 6,25 centilitres d'eau de vie, d'agnole, 5 centilitres de lait. Si on regarde ce qui se passe en 1914 ou en 1993...
Juste avant la guerre.
On amène plus de lait, 10 centilitres, on double. Et puis, à l'époque, on a le choix entre 1 litre de bière, 1 litre de cidre ou 1 demi-litre de vin. Le lait concentré apparaît en 1913, le fromage en 1914... Et à cette date, donc, on a 500 vaches laitières réparties en 4 centres de triage. En 1916, on prévoit 16 centilitres d'eau de vie, donc à comparer aux 6,25 de 1891. Mmh. 16 centilitres d'eau de vie, la ration de pain est passée de 500 grammes à 150 grammes par jour à cause des problèmes de ravitaillement généraux de la France. C'est-à-dire qu'on n'a plus les moyens d'amener autant de pain. Voilà. Et alors... On a aussi la ration de viande fraîche pour les civils, parce qu'il reste des civils dans les places. On a évacué tout un tas de gens, mais il en reste. Et les pompiers, les gendarmes, les gens ne sont pas des civils, des policiers, les gens qui ravitaillent l'eau, l'électricité, etc. etc., etc. Et donc, en 1914, on a comparé avec le militaire. Le militaire, c'est 400 grammes, le civil, c'est 200 grammes, etc., etc. Et donc, tout ça est organisé pour être ravitaillé avec un temps minimum. C'est-à-dire qu'on a chronométré le temps qu'il faut pour amener des animaux, pour amener le blé, etc., selon telle ligne, avec tels horaires. Par exemple, au moment de la concentration, de la mobilisation, à Épinal, il arrive, à partir du mois d'août 14, de la déclaration de guerre, il arrive un train toutes les 7 minutes, jour et nuit, en gare d'Épinal pendant 17 jours. Donc tout ça a été organisé, planifié avant la guerre. Il n'y a pas d'improvisation là-dedans. Et ça va fonctionner. Puis après, à la fois en fonction des événements, des combats, du front, ça va évidemment évoluer, puis point de vue du ravitaillement disponible. Mais voilà, on a quand même des idées. Par exemple, le lait, par exemple, on a toujours l'impression que les types vont picoler que du vin. Non, parce qu'on montre des images aussi, des actualités où on voit les gars qui roulent des tonneaux de vin et ainsi de suite, ou de l'agnol, etc., pour partir au combat. Enfin, c'est un peu du folklore, tout ça, il faut bien le dire. S'il fallait ravitailler en eau de vie toutes les unités qui partent au combat, je sais pas, on aurait été chercher tout ça. Enfin bon. Mais à côté de ça, oui, effectivement, il y a du lait, etc. Puis il y a d'autres à côté, le tabac, par exemple. Etc., etc. Et puis, prévoir aussi les couchages, parce que les hommes, quand ils vont sur le terrain, il faut bien qu'ils puissent coucher et qu'ils ne soient pas dans la boue. Donc, il faut de la paille, etc. Vous voyez, c'est tout un tas de détails auxquels on ne pense pas forcément, mais qui sont extrêmement importants. Et puis, c'est aussi tout le problème des communications. Alors, c'est pas seulement les communications en temps de guerre, mais en temps de paix. Il faut que le soldat puisse écrire à sa famille. Et donc, on a énormément, par exemple, à Épinal, On a récupéré des milliers de cartes postales qui ont été écrites par les hommes qui étaient en garnison à Épinal. Ils écrivaient sur la carte postale, hein, quelquefois même ils avaient une photo de leur caserne, hein, ou de là où ils étaient, en disant je suis ici, voilà ma chambre, etc. Hein, ça, on retrouve tout ça. Et donc, le courrier fonctionnait très bien. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, on a 3 levées par jour, on a 3 distributions de courriers par jour dans une ville Épinal, sauf le dimanche. Le dimanche, il n'y en a que 2. Hein? Voilà, non mais c'est incroyable. Hein? Mais évidemment, il n'y a pas de téléphone. Hein? Alors ça, c'est aussi un aspect important.
Eh bien, Jacques Grasser, je vous propose qu'on marque une pause dans cette présentation de ces collatéraux à la conception de ces forts, avec tous ces aménagements qu'il a fallu faire pour accueillir les hommes, les machines, les bêtes, les évolutions qu'ont connues également ces lieux. Eh bien, je vous propose qu'on se retrouve dans une prochaine émission pour poursuivre sur cette thématique. Et donc, je vous dis à très bientôt. Et quant à vous qui nous écoutez sur la fréquence, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur notre site internet.